C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous parlons de la lutte contre le trafic d'espèces sauvages dans le monde, un trafic qui représente des milliards de dollars et qui est placé par Interpol comme la quatrième activité illégale la plus lucrative au monde, derrière le trafic de drogue, la contrefaçon et la traite des êtres humains. Tous les deux ou trois ans, une grande messe essaye d'édicter les règles du commerce international des espèces, des plantes, du bois ou du poisson ou des mammifères. C'est la conférence de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Elle a réuni des représentants de 182 pays du 24 septembre au 5 octobre dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Charlotte Nitar, je rappelle que vous êtes la directrice de l'Association de protection de l'homme et de l'environnement Robin des Bois. Avec votre bulletin à la trace, vous exercez une veille très attentive sur ce trafic des espèces. Alors, l'un des bras de fer durant cette conférence a été le sort des éléphants. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots quelle est la triste situation mondiale aujourd'hui des éléphants ?
Bah écoutez, un peu d'histoire rapidement. Les éléphants ont été victimes d'une grosse crise du braconnage dans les années 70 et 80. En 1989, ils ont tous été inscrits en annexe 1.
Et à partir alors, comme de on là, le disait dans la première partie de l'émission, ça veut
1,
dire
c'est
que
interdiction totale du commerce international. Et à partir de là, on a vu que le braconnage diminuait très fortement en Afrique, disparaissait dans certaines zones, et donc que cet annexe 1 a vraiment eu un impact considérable et a sauvé les éléphants de l'extinction, en tout cas certaines populations d'éléphants de l'extinction. Malheureusement, le dispositif a commencé à s'éroder en 1997 avec des déclassements de populations d'éléphants en annexe 2, donc ce qui veut dire contrôle du commerce international. Et entre 1997 et 2006, quatre populations d'éléphants ont été déclassées en annexe 2, c'est-à-dire Afrique du Sud, Zimbabwe, Namibie et Botswana. Et il y a eu des ventes d'ivoire d'autorisés depuis ces pays à destination de la Chine et du Japon. Et ça a entraîné une recrudescence, une flambée du braconnage à travers le continent, puisque le message est toujours ambigu, à savoir les éléphants sont menacés, mais à certains endroits ils sont moins que d'autres. Le commerce est interdit, sauf qu'on peut en faire un peu depuis l'Afrique australe vers certains pays asiatiques. Et donc les contrebandiers, les braconniers se sont infiltrés dans la brèche et ça conduit à la situation actuelle où on estime qu'il y a à peu près entre 300, 350 000, les plus optimistes disent 380 000 éléphants à travers le continent, avec certaines sous-populations qui sont vraiment extrêmement menacées, particulièrement en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, et avec pour l'instant une communauté internationale qui reste inactive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'évolution du statut des éléphants lors de cette CITES. Il y avait une proposition de 30 pays africains de réinscrire tout le monde, tous les éléphants, en annexe 1. Elle a été refusée à cause du vote de l'Union européenne qui vote en bloc, donc c'est tout de suite 28 voix de 28 pays européens qui ont voté contre cette proposition.
Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que l'Union européenne vote contre la protection des éléphants ?
Parce que l'Union européenne a une position qui est principalement préparée par des bureaucrates qui comptent les éléphants un peu comme ils compteraient des vaches dans une étable, qui ne se rendent pas compte de la réalité du terrain, qui
oui, parce que
aussi
vous
ont des accords économiques avec l'Afrique australe de longue date, avec un renouvellement de ces accords économiques récemment, donc des liens privilégiés, on va dire, avec notamment l'Afrique du Sud, une commission européenne qui a été totalement incapable de s'adapter à une nouvelle tonitruante qui est arrivée pendant cette CITES, à savoir que le Botswana, qui a ses populations à l'heure actuelle en annexe 2, a fait une intervention magistrale en disant « Nous, on a voulu que nos populations soient en annexe 2, on a voulu essayer le commerce, ça ne marche pas, on perd des éléphants. Le Botswana, c'est le pays d'Afrique qui a le plus d'éléphants, 130 000. très loin devant tous les autres. Ils ont dit ça ne marche pas ces histoires de commerce limité, on perd des éléphants, on fait risquer la vie à nos gardes, on compromet le tourisme qui est une source de revenus considérable, on souhaite que nos populations d'éléphants soient de nouveau réinscrites en annexe 1. Et face à ça, vous avez la commission qui avait élaboré sa position avant à Bruxelles, qui après l'intervention du Botswana, donc c'était vraiment la honte, faut bien le dire, est intervenue avec son discours préparé plusieurs semaines avant, incapable de s'adapter et donc qui a voté contre et qui a fait capoter cette belle proposition.
Oui, parce qu'il y avait une proposition, vous le disiez, de 30 pays africains, Gabon en tête, hein, je crois.
Gabon en tête, mais pas seulement. Le Tchad aussi est très remonté, la Côte d'Ivoire. Vraiment, il y a un beau bloc de pays qui sont organisés, qui ont des arguments à la fois biologiques, techniques, de terrain, qui ont aussi une vision économique du marché bien claire. Mais malheureusement, leur voix n'a pas été écoutée. Elle a été même balayée par la communauté internationale. Enfin, balayée, il ne faut pas exagérer. C'était pas non plus, en tout cas, elle était balayée par l'Europe. Et c'est bien dommage. Maintenant, bien entendu, la lutte continue, on va dire, et on espère que lors de la prochaine CITES qui se tiendra dans 3 ans à Colombo au Sri Lanka, et le Sri Lanka était pour cette proposition annexe 1, la situation changera. Le discours, en gros, pour synthétiser, de l'Union européenne, c'est il est trop tôt pour réouvrir le commerce de l'ivoire, mais ça n'est pas nécessaire de l'interdire complètement. C'est vraiment une position qui comprennent qui pourra, qui est guidé par des intérêts autres que ceux de l'éléphant.
Pour bien comprendre la complexité de la situation de la lutte contre le braconnage, je vous propose d'aller au Gabon dans la réserve présidentielle de Wongawongé qui s'étale sur 500 hectares au sud de Libreville. C'est là que David Fine essaye de former des éco-gardes à la lutte contre le braconnage.
On a très grosse population d'éléphants, très très grosse population de buffles, très bonne population de chimpanzés, pas beaucoup de gorilles, mais présence peut-être d'une quarantaine, cinquantaine. Et ensuite, très bien représentées toutes les espèces de mandrilles, tous les cercopithèques. Pas mal de léopards aussi, peut-être dans les 250 ou 300.
Cette réserve, elle est située au milieu de 3 villes. Quelle est l'importance du braconnage ici ?
Il y avait eu un document qui est sorti il y a 2 ou 3 ans où il y avait 3 parcs qui étaient sujets à une proportion de braconnage plus importante que les autres. C'était Minkébé au nord, Mukalaba Doudou et la réserve présidentielle d'Ouangaongé. Et c'est peut-être pas un hasard, ces 3 parcs-là ont des frontières, ou sur la côte ou sur des pays. Il y a 14 parcs et réserves au Gabon. Il y en a 9 qui ont des frontières. Donc tout ça, c'est obligatoire que le braconnage soit présent.
D'où l'importance de mettre en place une stratégie de lutte contre le braconnage. Alors ici, c'est un peu le laboratoire pour les autres parcs, puisque c'est vous qui concevez un petit peu cette stratégie de lutte contre le braconnage au Gabon aujourd'hui. Mais alors si on revient à la réserve, vous avez combien d'éco-gardes ?
J'ai un effectif de 15, dont 2 chauffeurs, donc ils font pas les patrouilles, et un personnel féminin qui vient d'être formé sur la collecte des données, donc pas beaucoup de personnel.
15 éco-gardes pour 500 000 hectares, vous pensez que vous arrivez à quadriller la zone ?
On a divisé la réserve en 9 blocs, et chaque bloc est patrouillé à peu près une fois toutes les 6 semaines. Donc on a peu d'effectifs, c'est clair. On a peu de moyens, c'est clair aussi. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on doit lutter contre le braconnage, trouver une stratégie. Chaque conservateur doit connaître parfaitement sa zone, passer du temps à identifier les points de passage obligés des braconniers, identifier les campements. Et par rapport à ça, il faut toujours, à mon avis, commencer la protection de l'intérieur du parc vers l'extérieur du parc.
Quels dégâts avez-vous pu constater sur cette dernière année, par exemple ?
Les chiffres parlent un petit peu. On a le conseiller du président qui avait identifié, il me semble de tête comme ça, 56 ou 58 carcasses de moins de 7-8 mois.
D'éléphants ?
D'éléphants, oui. Et maintenant, on en est à 3. Et 3, c'est déjà trop. Et les campements, on est à peu près entre 25 et 30 campements. avec 11 passages obligés pour les braconniers.
Ça veut dire quoi, des passages obligés ?
Des endroits par lesquels c'est obligé qu'ils passent par là pour rentrer dans la réserve. On a découvert des embarcadères qui ne sont pas répertoriés sur les côtes, mais les braconniers s'en servent la nuit, ils accostent à 22h dans des petites rivières. C'est pas connu de la grande population, c'est quelque chose d'interne au milieu du braconnage.
Là, on va faire une patrouille pour essayer de voir comment justement vous travaillez.
Oui, on va faire une patrouille en véhicule dans le centre de la zone. Et cet après-midi, on va y aller avec plusieurs gardes. Donc chacun connaît sa place. Nous trois sur la banquette du haut. Derrière chacun de nous, un éco-garde avec un GPS, une paire de jumelles. Un éco-garde devant le chauffeur pour l'itinéraire. Direction le lac Ngole.
C'est parti.
Ok, départ. Devant.
Et dès que nous avons commencé notre patrouille, nous sommes tombés sur un troupeau d'éléphants. C'est vrai que c'était magnifique. Preuve qu'il y en a encore quand même beaucoup dans cet endroit de l'Afrique centrale. On entend bien, Charlotte Nittard, à travers ce reportage, la difficulté de protéger les éléphants et les autres mammifères du braconnage. En même temps, ça ne fait pas beaucoup hein, quand on entendait le nombre d'éco-gardes, 8 gardes à la superficie.
Oui, non, c'est totalement insuffisant, ça c'est assez sûr. C'est pour ça que nous, on milite pour que quand il y a des moyens financiers attribués pas par des pays tiers, pour faire des actions de terrain, ça soit en particulier pour des actions de surveillance et de maintien de cette surveillance dans les aires protégées notamment, plutôt que par exemple, comme le fait l'Union européenne, des aides de plusieurs millions d'euros pour compter les éléphants morts, pour savoir si c'est grave, très grave ou catastrophique. Donc il y a une vraie question et c'est évident que, comme on le disait tout à l'heure, il y a plusieurs méthodes pour contrer le braconnage et le trafic, et qu'en premier lieu, c'est vrai que c'est la lutte de terrain et la dissuasion.
Et il y a beaucoup de solutions pour préserver les éléphants, nous en parlons juste après une petite pause musicale.
Anunciando o outono chegou. Na rádio toca a carota de Ipanema, Madureira, e se tu vais a Rio. Tirei o pé do freio, deixo a nostalgia devagar se instalar. Não reclamo de nada, aproveito de tudo, faço esporte, mas fumo.
Oh,
La chanteuse franco-brésilienne Flavia Coelho, enregistrée chez notre consoeur Laurence Alloire. C'était dans son émission diffusée hier sur RFI. Pour l'instant, vous écoutez C'est pas du vent et nous parlons de l'ampleur du trafic d'espèces sauvages dans le monde et notamment des éléphants dont le nombre ne cesse de diminuer. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a d'autres solutions que de se focaliser uniquement sur la lutte contre le braconnage. Bonjour Julien Marchais.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur de l'initiative Eléwatch, avec d'autres, hein, puisqu'il y a votre association des éléphants et des hommes, mais il y a aussi IFAO et Aweli. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors il s'agit d'un observatoire et d'un réseau qui se concentre sur la valorisation des éléphants par l'écotourisme.
Alors l'écotourisme, est-ce que par rapport à ce dont on parlait avec Charlotte Nittard, l'ampleur du braconnage, etc., c'est pas un peu illusoire ?
Ah non, au contraire, je pense que c'est même central et un peu oublié des grands débats, puisque si on regarde une carte de l'Afrique aujourd'hui, on s'aperçoit que là où le tourisme s'est développé, les populations d'éléphants sont globalement en bonne santé, même si le braconnage frappe.
Vous pensez à l'Afrique
et
australe ?
Là où il n'est pas développé, en revanche, la situation est bien plus grave. Alors, il y a l'Afrique australe, il y a certains sites d'Afrique de l'Est, certains sites Afrique centrale, mais Afrique de l'Ouest, mais relativement rares. Mais c'est sûr que c'est le gros de la bonne valorisation des éléphants par le tourisme, c'est en Afrique australe aujourd'hui. Ouais. Et notamment au Botswana. Parce que le Botswana n'aurait pas aujourd'hui 130 000 éléphants s'il n'avait pas porté une vision politique ambitieuse et courageuse à long terme et avait mis en place le système de valorisation par le tourisme qui est actuellement à l'œuvre.
Alors comment ça fonctionne au Botswana ?
Alors au Botswana, c'est déjà des grands espaces qui ont été dédiés politiquement pour la valorisation de la faune par le tourisme. Alors quand même, c'est intéressant parce qu'historiquement, ça a été plutôt la chasse. Puis peu à peu, le tourisme de vision a pris de plus en plus d'ampleur, à tel point que le récent gouvernement du Botswana a aboli la chasse sur tout le territoire en 2014.
Donc, l'idée, c'est de concevoir l'éléphant comme une ressource à long terme, si je puis dire, et pas à court terme.
Oui, tout à fait, mais c'est voir l'éléphant dans toutes ses valeurs. C'est-à-dire qu'il y a évidemment les valeurs intrinsèques, les valeurs écologiques et culturelles, esthétiques, qui sont extrêmement importante et même, j'allais dire, inestimable. Et c'est une raison en soi pour les protéger. Mais ça a aussi une valeur économique. Et finalement, la valeur économique par la valorisation des éléphants vivants, j'insiste, hein, pas les éléphants morts, c'est une matérialisation dans l'économie de toutes leurs valeurs. Et d'ailleurs, l'écotourisme porte toutes ces valeurs, puisque quand on va voir les éléphants, on va les voir avant tout pour leur beauté, leur valeur intrinsèque, mais ça se concrétise par après de l'activité économique, de l'emploi et de la génération de revenus.
Alors vous travaillez depuis 15 ans hein, sur la protection de l'éléphant et vous dites que si les politiques n'équilibrent pas les priorités, on va droit dans le mur, ça veut dire quoi ?
Je ne dis pas forcément comme ça, mais effectivement...
Ah, vous m'avez dit, c'est pour ça que je le répète. Hein.
J'ai dit ça à ce point-là. En fait, la problématique de conservation de l'éléphant est une problématique complexe. Il ne faut vraiment pas la voir de manière simpliste. Et ça se traduit plus par une coexistence humain-éléphant. C'est-à-dire que quand on dit protéger les éléphants, ça veut dire maintenir les éléphants, mais maintenir aussi leurs grands écosystèmes. Ça veut dire gérer des conflits hommes-éléphants qui existent aujourd'hui à peu près partout en Afrique et en Asie. Et c'est aussi les valoriser, c'est-à-dire compenser les coûts de vivre avec les éléphants par la valorisation économique, notamment l'écotourisme. Et donc, on n'est pas sur des visions suffisamment à long terme pour équilibrer les forces sur toutes ces actions qui sont importantes, qui doivent faire l'objet d'investissements justement équilibrés entre les différentes parties. C'est-à-dire que miser uniquement sur la protection, s'il n'y a pas une valorisation derrière, on sait que ça va être un coût infini et qui ne sera pas pérenne. De toute façon, la protection ne pourra pas être pérenne.
Mais en même temps, est-ce que valoriser l'écotourisme face aux milices hyper armées dont parlait Charlotte Nittard tout à l'heure, c'est vraiment compatible ?
Je ne connais pas de situation de touriste qui soit dérangée fondamentalement aujourd'hui par le braconnage. Le problème, c'est justement quand il n'y a pas de présence, que les braconniers peuvent entrer comme ils veulent, et même peut-être avec une certaine complicité des populations alentours, puisque de toute façon il n'y a pas de valorisation. L'éléphant n'est pas vu comme une richesse, il peut être vu comme une peste agricole. Quand l'éléphant est vu comme une richesse, il y a une barrière faite par les populations riveraines qui veulent protéger leur richesse, puisque c'est créateur d'emplois et de revenus. Aujourd'hui, même dans le Pré Kruger, où on a ces milices armées qui viennent non pas pour les éléphants, mais surtout pour les rhinos.
Donc en Afrique du Sud
Oui, en Afrique du Sud, dans le parc Kruger, hein, la fréquentation touristique n'a pas baissé. Et c'est vrai aussi dans le parc Chobe au Botswana, c'est vrai aussi dans les parcs kényans. Donc non, ça n'est pas un argument.
Merci beaucoup Julien Marchais. Je rappelle donc le nom de votre initiative, hein, Ele Watch. On peut trouver ça facilement sur Internet. Il y a beaucoup de littérature très intéressante qui peuvent en inspirer plus d'un. Charlotte Nittard, comment réagissez-vous au propos de Julien Marchais ?
Bah écoutez, c'est sûr que la valorisation économique des éléphants aide à protéger les éléphants, et que c'est vrai qu'il ne suffit pas de dire que l'éléphant a une importance culturelle, une importance pour les écosystèmes, pour l'histoire de l'Afrique. Et il faut aussi que parfois, sur certaines zones en tout cas, les pays puissent en retirer un bénéfice en y associant les populations locales qui sont les principales vigies pour justement lutter contre le braconnage et les trafics. Donc c'est pour ça, là, il y a une tentative de certains pays pour le commerce de faire croire que la protection de l'éléphant, ça nuit aux populations locales et que finalement, presque, ça les empêche de se nourrir et de vivre d'une manière décente. Or, on voit que c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand il y a une protection de l'éléphant et qu'il y a aussi une valorisation avec un tourisme qui est bien fait, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus qu'il y ait une invasion touristique de 4x4, eh bien les populations local en tire un bénéfice et qu'il y a un équilibre qui se crée.
L'enjeu, c'est aussi de casser l'achat finalement, c'est-à-dire les pays destinataires, on les connaît, hein, c'est le Vietnam, Chine.
Chine principalement, c'est le marché asiatique au sens large pour les éléphants, mais attention, hein, pour les perroquets gris, les singes, les macaques, les magots, etc., c'est aussi beaucoup l'Europe et l'aquariophilie. Mais pour rester sur les éléphants, c'est le marché asiatique. Donc effectivement, il y a des campagnes d'information et de sensibilisation des consommateurs qui sont réalisées. Maintenant, il faudrait quand même être extrêmement lucide. Le temps que ces campagnes fassent de l'effet, ma foi, il risque de ne plus y avoir ni rhinocéros ni éléphants. C'est un marché considérable de millions d'individus qui considèrent que d'avoir de l'ivoire, c'est le dernier apparat de richesse et
mais
de
pourtant, le
social.
Gouvernement chinois s'est impliqué. Hein.
Le gouvernement chinois s'implique sur le marché national en particulier, et parfois va beaucoup plus loin que l'Union européenne dans ce domaine. C'est récent, c'est à saluer, et effectivement, avec aussi un renforcement des sanctions sur place, mais il y a aussi des problèmes de corruption. On a vu aussi des hommes d'affaires chinois dont les peines pour trafic d'ivoire étaient très sérieusement diminuées parce qu'il y avait un risque que socialement, ça pose des problèmes et que les banquiers, etc., etc. Donc il y a aussi ce problème de corruption en Asie, qui est sur tout les continents, mais Afrique, Asie en particulier. Donc c'est quand même un marché, c'est un ogre, donc il faut être extrêmement lucide. Il faut bien entendu qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, des actions du gouvernement, mais ça fait partie du faisceau d'action dont on parlait tout à l'heure. Et c'est à ne pas négliger, bien entendu, mais c'est absolument pas suffisant.
Oui, puis il faudrait arrêter de faire croire n'importe quoi aux populations.
N'importe quoi, absolument, à faire gober n'importe quoi. Et ça, c'est extrêmement difficile quand, bon, c'est pas le cas de l'ivoire, mais c'est le cas de la corne de rhinocéros, quand finalement, vous avez des gens qui exploitent la détresse de familles qui ont quelqu'un de malade sous leur toit. Donc, c'est difficile. Mais c'est possible.
Et puis le bilan finalement, enfin la vraie prise de conscience, ça serait d'arrêter de se sentir une espèce supérieure aux autres. Mais là, on parle dans des considérations philosophiques.
Oui, mais c'est sûr qu'il y a ce qui n'est pas du tout abordé par la CITES, enfin, ou très peu en tout cas, c'est la condition animale. Et par exemple, vous avez des espèces dont le commerce est autorisé en fonction de l'annexe 2, sous l'égide de l'annexe 2, et avec des conditions de transport, des mortalités pendant le transport, de détention et autres, qui sont absolument affligeantes pour le genre corps humain qui les possède.
Oui, mais est-ce que ça sensibilise
Ça sensibilise, oui, mais assez peu. C'est pas du tout quelque chose qui est pris en considération dans les décisions de la communauté internationale, au sein de la CITES en tout cas. Ces problèmes de maltraitance et de cruauté envers les animaux.
Et sur le fait que les scientifiques tirent le signal d'alarme sur le fait que nous sommes entrés dans une sixième période d'extinction et que voilà, c'est peut-être compliqué d'essayer de sauver des écosystèmes, mais des espèces bien identifiées, on pourrait peut-être se mobiliser.
Oui, oui, ça, c'est sûr que quand même, il y a une progression hein, dans les décisions. On voit que là, par exemple, il y a eu des grandes victoires pour le pangolin, pour le singe magot, pour le perroquet gris, pour la demoiselle de Clarion, qui est un poisson d'aquariophilie. Ça avance, mais d'une certaine manière, il vaut mieux être une grenouille tomate qu'un éléphant. Donc ça avance. Mais pour certaines espèces à très haute valeur économique comme l'éléphant et son ivoire ou le rhinocéros, c'est beaucoup plus difficile. Alors que c'est des espèces, on nous dit souvent, c'est des espèces emblématiques, vous pensez qu'à ça, mais la réponse c'est si on n'arrive pas à les sauver elles, qu'est-ce que ça va être pour toutes les autres et ces araignées et ces serpents et autres. Ça avance, mais y a urgence en particulier pour les éléphants et on espère que la communauté internationale ne tardera pas trop.
Merci beaucoup Charlotte Merci. Nittard d'être passée dans ces pas du vent à La Trace. Votre bulletin, on peut le lire où ?
Alors à La Trace qui est réalisé par plus de 10 personnes de Robin des Bois, par toute une équipe. On le trouve sur robindesbois, tout attaché en minuscule, .org.
Merci beaucoup, merci à Fabien Mugneret pour la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, cestpasduvent@rfi.fr.
Géopolitique.